RFI, 8h30 à Niamey et Paris, 7h30 à Bamako et Ouagadougou. Nemo en piste, c'est aujourd'hui, mercredi, que les trois pays de l'AES sortent officiellement de la CEDEAO.
Oui, il reste aux deux parties de s'entendre sur les formalités de retrait, alors que des rassemblements ont eu lieu hier dans des villes des trois pays pour soutenir les militaires au pouvoir. Une nuit calme à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des tirs toutefois entendus ce matin aux abords d'un camp militaire. Hier, une nouvelle réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies avait lieu à New York. Nous y sommes dans ce journal. À suivre également ce nouvel épisode dans le procès de l'homme d'affaires Olivier Bocco au Bénin. Et puis cette question, comment rallier 300 millions d'habitants du continent à l'électricité d'ici 2030 ? Ça s'appelle Mission 300, c'est initié par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et ça avait lieu à Dar es Salaam en début de semaine. C'est donc officiel en ce mercredi 29 janvier 2025. Les trois pays qui composent l'Alliance des États du Sahel ne sont officiellement plus membres de la CEDEAO. Mali, Burkina Faso et Niger avaient annoncé leur retrait l'année dernière avec effet immédiat, mais les statuts de l'organisation sous-régionale prévoyaient un délai d'un an. Les deux parties considèrent que ce départ est donc effectif ce jour et il leur reste à initier et à négocier les formalités de ce retrait. Mais alors de quoi s'agit-il concrètement ? Élément de réponse avec David Bachet.
Les pays de l'AES ne quittent pas l'UMOA, qui échappe étrangement aux accusations de manipulation dont la CEDEAO fait l'objet. La liberté de circulation des personnes et des marchandises reste donc garantie dans cet espace de 8 pays, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Bénin. Dès aujourd'hui, la carte brune automobile CEDEAO n'est plus valable pour les ressortissants de l'AES. Ils peuvent en revanche désormais se procurer le nouveau passeport de leur confédération. Le Mali, le Niger et le Burkina ont déjà annoncé que les ressortissants de la CEDEAO pourraient entrer sans visa dans leur espace. La réciproque devra être négociée. Tout comme les nouvelles règles qui s'imposeront aux citoyens de l'AES installés durablement dans les pays de la CEDEAO, aux entreprises créées par des ressortissants de l'AES dans l'espace CEDEAO et inversement. En jeu également l'avenir des sièges des institutions de la CEDEAO situées dans l'AES ou celui des citoyens de l'AES fonctionnaires à la CEDEAO. Jean-François Akanji Kombe, spécialiste des droits communautaires africains, pointe enfin l'enjeu des programmes financés par la CEDEAO dans les trois pays.
Avant que ne soit créée l'AES, il y avait deux canaux par lesquels il y avait des financements de la CEDEAO. Il y avait les projets typiquement CEDEAO, mais il y avait aussi l'appui de la CEDEAO à l'autorité du Liptako Gourma qui couvrait les trois pays. Il s'agit de solder ces différents projets-là qui vont des grands projets d'infrastructure jusqu'à des tout petits projets dans les villages, auprès de communautés, etc.
Le retrait est désormais consommé, mais la CEDEAO donne encore 6 mois aux pays de l'AES pour faire marche arrière, une proposition balayée par les intéressés.
Et dans un communiqué publié il y a quelques heures, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest précise que la liberté de circulation reste garantie pour les ressortissants de l'AES et que leur passeport reste pour l'heure valable. RFI 9h33 à Goma, les dernières évolutions de la situation dans la capitale provinciale du Nord Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo. La nuit a été calme sur place. Ce matin, tout de même des tirs ont été entendus aux abords du camp militaire de Katindo, situé non loin du centre-ville. Côté diplomatique, le président kényan William Ruto avait annoncé la participation des présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à un sommet de la communauté des États d'Afrique de l'Est qui doit se tenir aujourd'hui. Selon les services de la présidence congolaise, Félix Tshisekedi n'a pas prévu d'y prendre part. Il s'adressera toutefois ce soir à travers un message radio-télévisé diffusé en direct depuis ses bureaux de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. Elle, en revanche, a d'ores et déjà pris la parole, et cela devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, réuni pour la deuxième fois en 48 heures. Thérèse Wagner a demandé à ses membres de sortir de leur silence. La chef de la diplomatie congolaise a réitéré son appel au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire congolais, ainsi qu'aux sanctions contre les responsables militaires et politiques. RFI New York, Karen Houghton.
Depuis le premier conseil de sécurité sur les affrontements autour de Goma dimanche, les voix se sont faites plus nombreuses pour demander au Rwanda de lâcher les miliciens du M23. L'ambassadeur chinois a pour la première fois été explicite. Seule la Russie et les trois pays africains du conseil, Algérie, Somalie et Sierra Leone, ainsi que leur allié le Guyana, se sont refusés à désigner Kigali comme responsable. Des observateurs supposent qu'ils attendent la position officielle de l'Union africaine. Or, cette prise de position ne devrait pas avoir d'influence sur ce qui se passe à New York, selon la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner.
Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect ? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali ? Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation.
Une responsable de la MONUSCO a décrit une situation sécuritaire qui se dégrade, des cadavres jonchant les rues de Goma et les installations de la Croix-Rouge internationale étant débordées. Elle a mis en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques dans l'est de la RDC. Karine Auton, New York RFI.
J'ajoute que les combats ont créé 500 000 réfugiés de plus dans les provinces du Nord et du Sud Kivu depuis le 1er janvier de cette année, toujours selon Thérèse Wagner, la ministre congolaise des Affaires étrangères. Enfin, du côté de Washington, Marco Rubio, lui, s'est entretenu par téléphone avec le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, le nouveau secrétaire d'État américain. A réitéré son appel au cessez-le-feu immédiat et de s'attaquer aux causes profondes du conflit une fois pour toutes. Paul Kagame a de son côté salué une conversation productive avec son interlocuteur. Un épisode supplémentaire dans le procès d'Olivier Bocco, d'Osvaldo Mecchi et de quatre autres personnes poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État au Bénin. Hier, l'audience s'est tenue sans avocat de la défense. Un choix de la part des prévenus qui n'ont pas recruté d'autres conseils après la démission collective de leurs avocats. Ces prévenus rejetant la faute sur l'administration pénitentiaire. Deux moments forts à souligner ce mardi. D'abord, le silence des deux principaux accusés, puis la déposition du commandant de la garde républicaine approché selon la justice béninoise pour mettre en place le projet de renversement du président Patrice Talon. Compte rendu d'audience signé Jean-Luc Aplogan.
Selon l'officier, c'est le 30 juillet 2024 que le ministre lui a parlé du projet pour la première fois. Pour obtenir son adhésion, Osvaldo Mecchi aurait d'abord dénigré Patrice Talon, affirmé qu'il va s'accrocher avec un troisième mandat. Il confirme l'ouverture d'un contrat d'assurance prestige ouvert en son nom en Côte d'Ivoire. Toujours selon lui, le budget de l'opération a été évalué à 1,5 milliard de francs CFA. C'est au moment où le ministre devait lui remettre l'argent qu'ils ont été arrêtés. Pourquoi ne l'avoir pas dissuadé d'entrer, interroge le ministère public. J'ai pris le risque de gérer et d'informer l'autorité au bon moment. À propos d'Olivier Bocco, l'officier déclare n'avoir jamais parlé du projet avec lui. L'intéressé s'étonne d'ailleurs dans un PV d'audition lu à l'audience. Je m'interroge sur ce que je fais ici. Sur l'origine des fonds saisis pour la justice, une bonne partie viendrait de Roch Nyeri, beau-frère de Olivier Bocco. Il n'y avait pas d'avocat pour apporter la contradiction. En leur absence, Olivier Bocco et Osvaldo Mecchi ont décidé d'observer le silence. Jean-Luc Aplogan, Cotonou, RFI.
Et l'audience doit se poursuivre ce mercredi. La Libye, dans ce journal, reprise des opérations pétrolières après une courte suspension de l'exportation annoncée par la compagnie nationale libyenne dans un communiqué hier soir. Un peu plus tôt dans la journée, une manifestation de contestataires appartenant au mouvement du croissant pétrolier a éclaté dans deux terminaux pétroliers, celui d'Al-Sidra et celui de Ras Lanouf, situé dans l'est du pays où les chargements de pétrole ont été bloqués. Un mouvement qui masque en réalité une nouvelle crise entre les autorités de l'Est et de l'Ouest libyens sur le partage des revenus pétroliers. Les familles du Premier ministre Abdelhamid Dbeiba et du maréchal Khalifa Haftar sont accusées de corruption et de vente illicite de pétrole en dehors des radars de l'État. Explication, Ouda Ibrahim.
Les autorités libyennes impliquées dans le trafic illicite de pétrole ont aujourd'hui bien du mal à cacher leur jeu. Une activité de nature à déstabiliser la Libye et à financer les groupes armés, ont estimé les experts de l'ONU. Ce trafic a récemment conduit à la démission de Farhat Ben Gaddara, directeur général de l'ANOC, la compagnie nationale libyenne de pétrole, également accusée de corruption. Certains osent s'exprimer désormais ouvertement sur le sujet en Libye, comme Salem Irmeh, le président du syndicat général du pétrole. Il affirme que tous les responsables sont impliqués dans le trafic illicite de pétrole. Selon ce syndicaliste, ce trafic est légalisé à travers l'ANOC, ainsi que par Dbeiba, le premier ministre de Tripoli, qui a donné au militaire Saddam Haftar, gérant de la société Arkano basée à Benghazi, le droit d'exploiter 30% des revenus de certains champs pétroliers à son profit. Selon plusieurs sources, le blocage de ces deux terminaux pétroliers était un moyen de pression sur Tripoli pour préserver l'accord. Le mouvement de protestation réclamait le déménagement à Benghazi de 5 compagnies pétrolières dépendantes de l'ANOC.
Et puis c'était mission 300 à Dar es Salaam ce lundi et mardi. Objectif de ce sommet en Tanzanie à l'initiative de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement. Relier 300 millions d'habitants du continent à l'électricité d'ici 2030. Un fonds spécial hébergé par la Banque mondiale et alimenté par des dons et des prêts a été acté. La déclaration de Dar es Salaam sur l'énergie signée et différents acteurs se sont engagés à hauteur de 53 milliards de dollars. Précision Charlotte Cossé.
Ce n'est pas la première initiative pour l'électrification du continent, mais pour Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale, les dynamiques ont changé.
C'est le leadership fort, affirmé des États et de leurs dirigeants. Avoir autour de la table plus de 30 chefs d'État et chefs de gouvernement est sans précédent. Le deuxième, c'est l'appropriation des réformes. Le troisième, c'est le partenariat dans toutes ses formes. Les organisations internationales de financement du développement, et la société civile, le secteur privé, les philanthropistes, c'est la première fois qu'ils se mettent autour de la table en disant « Nous voulons véritablement accélérer l'électrification de l'Afrique. »
12 États ont présenté leur plan détaillé. Parmi eux, la Côte d'Ivoire. Abidjan estime avoir besoin de 6 milliards de dollars pour produire notamment 2000 mégawatts supplémentaires. Afin de bénéficier du programme, les autorités se sont engagées sur un certain nombre de réformes. Mamadou Sangawofa Koulibaly, ministre ivoirien de l'énergie.
En ce qui concerne le secteur privé, l'essentiel des réformes que nous devons faire, c'est la viabilité financière de notre secteur électricité. Nous regardons plus au niveau de la gouvernance. Comment faire pour optimiser l'exploitation de notre réseau? Comment faire pour continuer de baisser le coût de production et surtout à continuer d'améliorer le taux de recouvrement?
Au-delà d'apporter le courant dans les foyers, il s'agit d'assurer l'éducation, la santé et le développement économique sur le continent.
Charlotte Cossé, du service économie de Radio France Internationale. RFI Matin Suite F1, à vous, Andréane Mélard.
Merci Nemo.